Bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin et aussi de vous apporter les salutations de l'église de la Garenne. Alors, notre passage ce matin se trouve dans l'épître de Paul à l'église de Philippe, donc Philippiens, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1, donc jusqu'au verset 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous invite à prier d'abord. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Nous voulons te demander de nous aider à nous mettre à ton écoute, à écouter ce que ta parole a à nous dire. Façonne-nous par cette parole, que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. Parle-nous, aide-nous à nous remettre en cause là où nous avons besoin de nous repentir. Élève Jésus aussi dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce que moi j'aime dans les bandes dessinées d'Astérix et d'Obélix, ce sont les clichés nationaux. Alors, dans Astérix, chez les Bretons, c'est-à-dire les Grands Bretons, les Anglais, dont je suis un, Obélix ne cesse de dire que les Anglais s'en foutent. Ils conduisent à gauche. Ils s'arrêtent toujours à 16 heures pour boire de l'eau chaude avec un nuage de lait. Alors, jusqu'à ce que Astérix arrive avec le thé, bien sûr. Ils boivent leur bière tiède. Alors, Obélix a raison. Ils s'en foutent. Lorsqu'on voyage à l'étranger, ou mieux, si on déménage, si on s'installe dans un pays étranger, c'est vrai, il faut s'habituer à une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Parce que chaque peuple a ses habitudes, ses coutumes, et aussi sa façon de penser. Certes, tout le monde dans un pays donné ne se conforme pas aux clichés nationaux, mais il n'empêche que ces clichés disent quelque chose de général qui se révèle souvent très vrai. Alors, ce matin, dans notre texte, l'apôtre Paul va parler des habitudes, des coutumes et surtout de la façon de penser, la mentalité, la perspective du citoyen du ciel. Alors, juste quelques versets avant, au chapitre 1, au verset 27, Paul a déjà exhorté les chrétiens de Philippe à vivre en bon citoyen. C'est au verset 27. Et dans ce passage-là, le passage d'avant, Paul disait que le chrétien qui assume pleinement sa nouvelle citoyenneté, qui vit pour sa nouvelle patrie, son nouveau Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout naturellement s'associer à d'autres chrétiens, où qu'ils se trouvent, ça peut être dimanche matin ici à l'église, ou au travail, ou à la fac, ou en vacances même, pour participer ensemble à la proclamation du bien fondé de la foi, c'est-à-dire le fait que Jésus est Seigneur, le roi de l'univers. Et dans le texte qui suit celui-là, Paul enchaîne en disant, en nous parlant de l'attitude du citoyen du ciel, de sa mentalité, de sa façon de penser. Il va nous montrer quelles sont les spécificités de notre nouvelle identité spirituelle et les valeurs spirituelles du citoyen du royaume de Jésus. Alors, dans les quatre premiers versets de ce passage, nous allons voir l'attitude, notre façon de penser et d'agir, que ces choses découlent de l'Évangile lui-même. Et dans un deuxième temps, dans la suite du passage, donc les versets 5 à 11, donc je vous invite à garder vos Bibles bien ouvertes ou les rouvrir si vous les avez fermées. Donc, la suite du passage, versets 5 à 11, nous allons voir plus précisément que ces valeurs trouvent leur source en Jésus-Christ, qui est lui le modèle citoyen par excellence. Donc deux grandes parties ce matin, la mentalité ou l'attitude chrétienne découle de l'Évangile lui-même, et deuxièmement, la mentalité chrétienne prend modèle sur Jésus. Donc commençons avec ce premier point, la mentalité, l'attitude chrétienne découle de l'Évangile. C'est le verset 2 qui nous montre que Paul se soucie énormément de la façon de penser des chrétiens de Philippe. Il veut qu'ils vivent en plein accord, ayant un même amour, un même cœur et une unité de pensée. Littéralement, qu'ils soient une seule âme. C'est fort, n'est-ce pas? C'est vrai que dès qu'on parle de quelque chose comme une perspective commune ou une unité de pensée, c'est vrai que ça peut nous faire penser à cette célèbre pensée unique, où tout le monde pense de la même manière, comme s'il avait été produit sur une chaîne de production. Les êtres indifférenciés pensant bêtement de la même manière et ont subi le même endoctrinement. Des clones, quoi. Mais Dieu nous a créés avec des personnalités différentes. Et nos personnalités différentes et variées sont pour lui un sujet de joie. Il ne veut aucunement les oblitérer et faire de nous des robots qui parlent de la même manière ou qui portent les mêmes vêtements ou qui votent tous pour le même parti politique. Toutefois, il veut que nous ayons la même passion, la même joie, le même objectif dans la vie. Vous savez, cette unité de pensée, cette même âme, s'exprimera sans doute de manière différente selon nos personnalités, mais elle nous donnera un air de famille, les traits familiers qui nous rappellent Jésus lui-même. Alors, si Paul doit rappeler l'importance de cette même passion, cette unité de pensée, c'est que cette unité n'est pas toujours facile à vivre, ou elle n'est pas facile à garder. Au verset 3 à 4, Paul nous donne le cap, négativement d'abord, et ensuite positivement. Alors, de manière négative, Paul dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » Et positivement, Paul dit, « Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Le verset 4 dit plus ou moins la même chose avec une nuance différente. « Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Alors Paul est en train de nous dire que cette ère de famille, ce trait familial des chrétiens, la mentalité, est fondamentalement cette humilité. Voilà les valeurs du chrétien, celles de Jésus. Ce sont des valeurs radicales, tournées vers le bien de notre prochain. Ici, il s'agit d'un amour, d'une compassion, qui met les besoins des autres avant les nôtres. Leurs besoins spirituels, les vrais intérêts, on les met devant les nôtres. Ce sont des valeurs extrêmement attractives, extrêmement bienfaisantes. Alors, si vous prenez le temps, peut-être cet après-midi, de lire le premier chapitre de Philippiens, vous ferez le constat que l'église de Philippe a une grande place dans le cœur de l'apôtre Paul. Et à bien des égards, cette église est une église modèle. Un modèle sur lequel n'importe église ferait bien de calquer sa propre vie d'église. Pourtant, Paul a besoin de leur rappeler ces choses. Car elle non plus n'est pas à l'abri d'un esprit de rivalité. Et si cela est le cas pour l'église de Philippe, cette église modèle, c'est probablement d'autant plus vrai pour nos églises ici en Île-de-France. Alors, ce passage nous montre comment l'apôtre Paul est un vrai chirurgien. Son couteau de chirurgien s'attaque directement aux kystes spirituelles qui posent problème. Parce que la rivalité, le désir d'une gloire sans valeur, sont tous les deux des symptômes d'une mauvaise compréhension de l'évangile de grâce. Ce sont des symptômes qui indiquent que nous avons besoin de revenir à Jésus, à la croix, au pardon, à cette justice que Jésus nous donne gratuitement, cette approbation en lui que nous avons. Par un esprit de rivalité, on essaye de se persuader qu'on est meilleur que les autres. Le plus souvent, quelqu'un qui est animé par cette attitude-là essaie d'abaisser son rival, de dire du mal de lui, de se hisser au-dessus de lui en le rabaissant. Je pense qu'on prend conscience de cette attitude en nous lorsque cela nous énerve quand quelqu'un d'autre prend de l'importance aux yeux des autres ou quand quelqu'un fait quelque chose de bien et tout le monde dit « Ah, mais c'est vraiment super » et ça nous énerve. Et ce désir d'une gloire sans valeur va de pair avec cette attitude, cet esprit de rivalité. On se livre à la rivalité malsaine parce qu'on cherche cette gloire sans valeur. Et le désir d'une gloire sans valeur, c'est sans doute peut-être en partie ce désir d'être bien vu, d'être bien considéré par les autres, d'avoir une bonne place. Et dans le fond, de dépendre dans notre fort intérieur de l'approbation des autres, de vivre pour ça. Une telle soif nous conduit à nous mettre en avant, à rechercher sans cesse à être celui qui est en vue, qui est apprécié, qui est loué, et du coup à rabasser les autres, à dénigrer les intérêts de ceux qui viennent nous voler la vedette. De manière très subtile, on peut baser notre estime de soi sur l'approbation des autres. On en fait une idole. Perversement, en tant que chrétien, on peut tenter d'utiliser nos ministères, nos dons, pour gagner cette approbation. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe que la mentalité chrétienne, qui est foncièrement, humblement, centrée sur le bien de ses frères et sœurs, est bien possible. Ce n'est pas inatteignable ou une utopie, mais cette attitude découle de l'Évangile lui-même. C'est le verset 1 qui nous le dit. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Cette unité de pensée, ce désir de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, découle du fait que nous avons tout en Jésus-Christ. Et ce que nous avons en lui nous façonne au plus profond de notre être. Parce qu'en Jésus, nous sommes pardonnés. Nos fautes d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont déjà payées. Nous n'avons rien à craindre, rien à prouver, rien à faire pour devenir encore plus pardonnés que nous ne le sommes. En lui, nous sommes adoptés comme ses enfants. Ça veut dire que notre statut devant lui est permanent. L'Esprit a fait sa demeure en nous. Il est le garant de la vie nouvelle à venir. Dieu nous connaît. Nous sommes connus de lui. Il est devenu proche. En Jésus, nous sommes plus aimés que nous ne pouvions jamais l'imaginer. Nous sommes les sujets de sa grâce. Nous avons l'approbation de Dieu. Il nous aime. Il nous chérit. Non pas en vertu de ce que nous aurions fait, nous, ça c'est une fierté mal placée, mais simplement et seulement parce que nous sommes en Jésus, parce que nous avons été unis à lui par la foi, à celui qui a, lui, la pleine approbation de Dieu. Alors quand nous lui rappelons ces vérités, quand nous les méditons peut-être le matin, le soir, peut-être dans le métro, peut-être au volant de votre voiture, peut-être devant la glace de la salle de bain. Il faut inviter nos cœurs à les croire. Et du coup, la vanité de la rivalité se laisse entreapercevoir. La futilité de ce désir d'être bien vu, d'avoir l'approbation des autres, d'avoir une bonne réputation aux yeux des autres, elle devient flagrante et nauséabonde. Pourquoi ? Parce que nous n'en avons tout simplement plus besoin. Parce que nous avons tout en Jésus. Nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes meilleurs que les autres. Aux yeux de Dieu, nous avons toute l'approbation qu'il nous faut, et encore. Du coup, l'Évangile, la grâce, nous libère pour vivre autrement. Elle nous libère de vivre humblement, de vivre non pas en se comparant favorablement ou défavorablement aux autres, mais en cherchant l'intérêt de nos frères et sœurs. Alors, dans la deuxième partie de ce passage, Paul va nous exhorter à prendre modèle sur Jésus. Paul veut vraiment que nous soyons dénués d'égoïsme, de rivalité, d'antagonisme. Mais il sait qu'une longue liste de règles, ne faites pas cela ou faites ceci, ce n'est pas ça ce qui va nous changer. Une telle liste de choses, bonne en elle-même, ne servirait qu'à nous condamner, à nous décourager et voire à nous emprisonner dans notre jalousie. Dans ce passage, Paul veut nous montrer comment Jésus, comment son exemple, doit être le moteur de notre vie chrétienne. Le moteur qui nous donne envie de vivre autrement. Et Paul le fait en nous donnant un exposé, en exposant toute la grandeur et toute la beauté de Jésus. Paul veut nous montrer à nous les citoyens du royaume céleste, le modèle par excellence. C'est-à-dire la mentalité, la perspective, la façon de penser de Jésus. Alors ce passage, c'est vrai, est extrêmement riche en détails, des détails très profonds. Je ne peux que vous encourager à prendre le temps dans la semaine à relire ce passage, à méditer tous les détails. Vraiment, il y a des bijoux en fait dans ce passage. Mais moi, je vais relever simplement les grandes idées ce matin. En commençant avec cette grande idée d'humble service. Alors, les versets 5 à 7 se lisent ainsi. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, ou parce qu'il est de condition divine, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité devant Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. C'est parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est l'égal du Père, parce qu'il est de condition divine, c'est pour ça qu'il ne cherche pas à faire valoir les privilèges de son statut. Paul est en train de dire que Dieu est fondamentalement un Dieu serviteur. C'est étonnant. C'est étonnant que l'être le plus grand qui soit, le plus majestueux qui soit, qui est digne de toute louange, est caractérisé au plus profond de lui par ce désir de service. Il cherche à servir. Dieu cherche l'intérêt des autres. Notre Dieu, il est comme ça. Et Jésus montre toute son attitude divine en devenant un serviteur. Alors, nos traductions disent qu'il s'est dépouillé lui-même ou il s'est vidé lui-même en prenant une condition de serviteur. Alors, cela ne veut pas dire, comme certains ont prétendu, que Jésus s'est dépouillé ou s'est vidé de sa divinité. Ouais, les évangiles nous montrent, les récits de l'évangile montrent les miracles extraordinaires de Jésus, sa puissance sur la création, sur la mort. Jésus ne s'est pas vidé de sa divinité. Mais cela veut dire qu'en prenant une nature humaine, Jésus a renoncé à tous ses privilèges célestes pour s'abaisser et pour nous servir. Il n'a pas échangé son statut divin pour un statut de serviteur. Mais en tant que Dieu, tout en restant Dieu, il a pris la forme de notre serviteur ou même notre esclave. Alors c'est une illustration un peu banale, mais ça serait comme si le président de la République, peut-être pour assurer le service minimum, décidait de conduire lui-même les trains RER ou de nettoyer les toilettes du palais de l'Élysée. En faisant cela, il ne mettrait pas en cause son statut de président. Il ne perdrait pas son mandat, il est élu, donc ça ne changerait pas grand-chose à ce niveau-là. Mais nous serions très surpris et interpellés. C'est l'Évangile, quand on y pense, est vraiment ahurissant. C'est radical. Dieu est devenu notre serviteur, notre esclave. Peut-on réellement saisir l'énormité de la chose? C'est une preuve gigantesque de l'amour de Dieu pour nous. C'est quelque chose qui devrait nous rendre très humbles. Mais si la personne au bénéfice de cet humble service commençait à faire le contraire de ce que Jésus a fait, en se mettant en avant, en se hissant au-dessus des autres, en se considérant supérieur aux autres, ça serait un non-sens, ça serait une aberration. Ça serait comme s'il n'avait pas encore saisi ce que Jésus a fait, l'énormité de ce que Jésus a fait. Lorsqu'on saisit l'ampleur de ce que Jésus a fait, la rivalité n'a plus de sens. Si ce n'est de devenir le serviteur le plus dévoué qui soit. Alors Paul enchaîne, il enchaîne en parlant de la croix. Il veut nous montrer un autre aspect de l'attitude de Jésus, une attitude d'humble sacrifice. Verset 8. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, lorsque Dieu prend la forme d'un serviteur, c'est pour nous servir de manière radicale. Jésus a dit, « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le langage d'humilité, de service, de rançon, de sacrifice, tout ça trouve sa source dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre d'Ésaïe. Après avoir parlé d'un roi divin à venir au début de sa prophétie, c'est un texte que nous lisons souvent à Noël, Ésaïe parle plus loin d'un serviteur de l'Éternel, qui va donner sa vie pour ses brebis errantes. Et le roi et le serviteur ne font qu'un en Jésus-Christ, notre roi serviteur. Ésaïe dit à ce propos, donc chapitre 53, « Mais lui, serviteur, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » À quoi Jésus a pris sur lui le châtiment pour nos fautes. Jésus s'est offert en sacrifice pour que nous puissions connaître le pardon, avoir un nouveau départ, une nouvelle relation avec Dieu, pour que nous puissions avoir cet encouragement, cette consolation, cette tendresse, cette miséricorde. C'est ça le cœur de ce qui est en train de se passer à croix. Mais en même temps, Paul parle ici de la croix pour nous montrer l'attitude de Jésus, l'attitude d'humble sacrifice. Une des facettes du sacrifice de Jésus à la croix, c'est de nous montrer la voie à suivre. Comment vivre d'une manière qui plaise à Dieu? Bien sûr, il va de soi que nous ne pouvons pas porter nos propres fautes. Nous ne pouvons pas porter les fautes des autres. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Son sacrifice est unique. Mais en Jésus, nous voyons l'exemple de celui qui a su s'abaisser. Il s'est humilié pour notre bien, pour nous servir. Et l'humilité et l'humiliation de Jésus étaient immenses. Pour nous, le symbole de la croix est partout dans nos églises, autour de nos coups, sur beaucoup de drapeaux nationaux. La croix est devenue le symbole, l'emblème ou même le logo de la foi chrétienne. Et à juste titre d'ailleurs, car la croix et Christ crucifié sont au cœur de notre message libérateur. Mais ce symbole est quasiment la victime de son propre succès. puisque nous l'avons domestiqué. Il a perdu un peu sa capacité de nous choquer, de nous interpeller. Et pour quelqu'un qui a vécu au premier siècle, la croix était un symbole d'effroi, de peur et de honte. Cicéron, le grand orateur romain né en 106 avant Jésus-Christ, a dit en évoquant l'effroyable supplice de la crucifixion, que le nom même de croix soit écarté, non seulement de la personne des citoyens romains, mais de leurs pensées, de leurs yeux, de leurs oreilles. Car pour de tels supplices, ce n'est pas seulement les faits et l'exécution, c'est le caractère, l'attente, le nom seul qui sont indignes d'un citoyen romain et d'un homme libre. C'était une mort sans dignité humaine, un spectacle public. Le crucifié était exposé aux yeux de tous, à la risée de tous. C'était l'humiliation totale. Et pourtant Jésus, Dieu ayant pris cette nature humaine, Jésus s'est soumis à cette humiliation. Il a renoncé à ses droits, à ses privilèges, pour notre bien, pour notre salut, pour servir nos intérêts, pour que nous puissions connaître Dieu et être connus de lui. Et Paul nous invite à avoir cette même attitude de service et de sacrifice. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. » Lorsqu'on met les intérêts des autres avant les nôtres, lorsqu'on considère les autres comme supérieurs à nous-mêmes, ben nous sommes en train de mettre en pratique cette attitude d'humble sacrifice. Nous sommes en train de nous charger de notre croix. Ce n'est pas un écrasement de soi, ce n'est pas un déni de nos besoins personnels ou de nos personnalités. Ce n'est pas non plus un stoïcisme où on ne montre jamais nos vulnérabilités ou nos blessures. Mais c'est un choix libre de chercher résolument le bien de nos frères et sœurs. Et le bien, le salut de tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Aider tous à rencontrer Jésus, de grandir dans la foi, de montrer de manière vaste, de manière pratique et concrète, l'amour du Christ. C'est l'exemple de Jésus qui transforme l'attitude de notre cœur. C'est l'exemple de Jésus qui transforme l'attitude de notre cœur. Lorsqu'on commence à saisir un tant soit peu l'ampleur de ce qu'il a fait, la grandeur de son humilité, la générosité de son sacrifice, on ne peut que s'humilier devant lui. Notre fierté, notre orgueil, notre égoïsme sont exposés comme des folies. Étant au bénéfice du sacrifice d'un Dieu si humble, comment peut-on se livrer à la jalousie, à la rivalité, à la concurrence, à l'égoïsme? Alors les applications sont nombreuses et concernent toute notre vie personnelle et toute notre vie d'Église. À quoi l'Église ressemblerait si notre attitude était identique à celle de Jésus-Christ? Il y a deux semaines, nous étions 24 de l'Église de la Grande-Colombe à rendre visite à deux églises sœurs, deux églises baptistes à Belfast. Au cours de l'année précédente, ces églises nous ont beaucoup aidés. Nous avons reçu de l'aide pour nos travaux, la rénovation de notre local. On a reçu 3 équipes et ces gens sont venus à leurs propres frais. Ils ont pris le temps, suivant le temps de leur congé, pour nous aider à rénover ce local. Il avait fait dans un esprit missionnaire parce qu'il voulait servir Jésus. Il savait que ce local allait servir à l'annonce de l'évangile, de l'évangile de Jésus. Et il voulait que ça se passe. Donc ils sont venus pour nous servir. Et nous sommes allés chez eux et nous étions reçus comme des rois. L'accueil était vraiment royal. Ils se sont donné de la peine pour nous édifier, pour nous faire du bien, pour nous montrer tout l'amour qu'ils avaient pour nous en Jésus. Nous avions en quelque sorte droit à une illustration concrète et pratique, quoique imparfaite sans doute, de ce que cela veut dire d'avoir cette même attitude que Jésus avait. Cet humble service, cet humble sacrifice que nous voyons en Jésus impactera notre façon de parler. Est-ce que nos mots, nos paroles montrent que nous estimons les autres comme supérieurs à nous-mêmes? Cet humble sacrifice impactera la gestion de nos ressources, notre argent. Est-ce que nous gardons tout pour nous ou est-ce que nous mettons nos ressources au bénéfice, à l'œuvre pour le bien d'autrui? Notre temps. Est-ce que nous prenons le temps de servir, peut-être de manière sacrificielle, les autres, de nous soucier de nos frères et sœurs, peut-être qui passent par des moments difficiles, qui se sentent seuls? Cela impactera peut-être aussi nos prières. Est-ce que nous avons envie de porter les besoins de nos frères et sœurs devant le trône de la grâce? Ou est-ce que nos prières sont toujours centrées sur nous-mêmes, sur nos bobos, etc.? Même si c'est bien, toujours bien de présenter nos inquiétudes devant le Seigneur. Cela impactera notre façon de nous comporter les uns avec les autres. Est-ce que nous pensons aux intérêts de ceux qui sont plus faibles dans l'Église? Peut-être ceux qui ont moins d'amis ou ceux qui viennent d'arriver à l'Église, ou ceux qui sont moins mobiles et qui peuvent se déplacer avec moins de facilité. Alors, temps passe, je dois conclure. Et les derniers versets de ce passage nous montrent la conclusion de Dieu. Je cite, « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Jésus s'est donné, Jésus s'est humilié pour notre bien, pour nous servir, pour notre salut, pour nos intérêts. Ça lui a coûté très très cher. Mais Dieu ne l'a pas laissé à pourrir dans la tombe. Dieu l'a ressuscité. Il a élevé à sa droite. L'homme l'a condamné à mort, mais Dieu l'a agréé. Il lui a donné toute son approbation. Et Jésus a tracé devant nous le chemin que Dieu agrée. Cette voie est à l'image de Jésus, le roi serviteur. Si nous avons de l'encouragement, si nous avons de la consolation en lui, de la communion, de la tendresse, de la miséricorde en lui, en Jésus, celui qui nous montre la gloire du Père, adoptons cette même perspective, la même façon de penser que Jésus. Mettons les intérêts des autres avant nos propres intérêts. Refusons la rivalité et l'égoïsme. Cessons de chercher notre propre gloire, notre approbation. Et mettons notre confiance en Jésus, celui que le Père agrée. Mettons notre confiance en lui qui nous donne sa justice et qui nous donne l'approbation de Dieu. Je vous invite à la prière. Prions. Merci à notre Père de ce que nous pouvons venir devant toi humblement ce matin. Merci de ce que nous avons tout en Jésus. Nous étions hostiles à toi, nous étions loin de toi, des rebelles. Mais tu nous as donné ton Fils, qui a quitté la gloire du ciel, qui s'est humilié pour nous servir, pour notre bien, pour que nous puissions être réconciliés à toi, être pardonnés, être couverts de sa justice, de toute l'approbation qu'il a devant toi. Merci de ce que nous pouvons venir devant toi humblement, les mains grandes ouvertes, sans rivalité, sans jalousie. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider cette semaine à vivre de cette manière-là, de prendre modèle sur Jésus, de vraiment calquer nos vies sur son humble service, son humble sacrifice. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.